Et notre invité ce matin, Dominique Moulin, bonjour.
Bonjour.
Président de la communauté de communes du Guillestroy-Quéra, merci d'avoir accepté l'invitation d'Alpe 1. Tout d'abord, ce sujet qui a fait l'actualité cette semaine sur Alpe 1, le système de collecte d'ordures ménagères. Les bennes ont été équipées d'un système à cartes pour mettre progressivement une formule incitative. Ça n'a pas fait la joie de Marcel Cana, le maire de Réautier, qui vous demande de faire marche arrière. Ferez-vous marche arrière?
Non, on ne fera pas marche arrière. Par contre, je suis prêt à étudier toutes les solutions qu'on peut trouver. Ça fait forcément plaisir à personne d'être obligé d'avoir une carte pour ouvrir le bac à ordures ménagères. Mais si tout le monde a sa carte, déjà, on devrait y arriver. Donc, les solutions, c'est comment faire pour que les gens qui n'ont pas de carte n'ont pas de carte et pourquoi ils n'ont pas de carte. Et ensuite, les solutions, s'il y a des dépôts au sol, c'est de trouver une solution pour les ramasser au plus vite.
Parce que c'est ce qu'il reprochait, en fait. Il y a trop de dépôts sauvages aujourd'hui. Si on continue avec ce système, il y aura encore plus de dépôts sauvages.
Alors, quand on en a parlé, on en parle depuis 2017, de la tarification incitative. Donc, on a commencé par mettre les molocs. Ensuite, il y a eu des zones test où il y avait la carte. Ensuite, on a mis les tambours partout. Quand on a mis les tambours, on a eu des dépôts au sol, par exemple, alors que c'était ouvert. Donc, ce qu'on trouve au sol, c'est des fois des sacs qui ne rentrent pas dans les tambours. Donc, les gens qui ne sont pas forcément encore au courant qu'on doit mettre des sacs de 30 litres. Quand on voit des choses au sol, bon, ça, c'est vrai que c'est... Mais ça, on le sait, je peux le dire, mais c'est toujours des choses pas triées, ça, c'est clair. Et en même temps, s'il y a des sacs au sol, c'est que maintenant, le tambour est fermé. Et on sait qu'en fermant les tambours, puisqu'il faut une carte, on aura plus de dépôts au sol. On aura plus de dépôts parce que les gens arrivent devant le tambour, ils n'ont pas la carte. Donc, c'est à nous de faire en sorte que les gens aient la carte, qu'ils puissent venir au tambour avec la carte. Pour les touristes, si on est hébergé, normalement, il doit y avoir l'hébergeur qui doit vous donner la carte. Et puis, si vous n'avez pas la carte, on a d'autres solutions. On a des solutions de badge, de QR code, de choses comme ça pour pouvoir ouvrir. Et on va développer ces solutions. Et maintenant, si on a encore des dépôts au sol, soit on va travailler avec les mairies, qui pourraient les ramasser, mais j'ai l'impression que ça ne fait pas l'unanimité. Et ben, s'il faut qu'on mette un service pour qu'on ramasse le peu qu'il y a au sol, parce que quelque part...
Les mairies ne veulent pas forcément ramasser, parce que c'est à elles de ramasser les dépôts sauvages qui sont au sol.
Oui, normalement, c'est à elles de les ramasser, puisque ça devrait aller dans les bacs, et si les bacs ne sont pas pleins, c'est normalement de la propriété publique. Mais on comprend aussi que c'est compliqué la différence entre le dépôt sauvage et le dépôt parce que j'ai pas la carte, etc. Donc il faut bien que quelqu'un ramasse de toute façon. Moi, je peux vous dire, j'ai toujours ma carte dans la voiture. Comme actuellement, de toute façon, c'est gratuit, puisque mine de rien, on paye pas pour l'instant. Avec la carte, on ouvre, mais on paye pas pour l'instant. Donc quand
je vois un dépôt. À partir de 2027, qu'on va payer sur les dépôts de 2026.
Sur les dépôts de 2026, voilà. Quand je vois un dépôt au sol, je m'arrête avec ma carte, j'ouvre et puis je mets dedans. Je comprends que c'est pas facile et que tout le monde peut pas faire ça, que tous les élus peuvent pas faire ça, que tous les employés municipaux. Mais on a donné des cartes aux communes, des cartes pour les employés municipaux quand ils passent, qu'ils puissent ouvrir, et ces cartes sont gratuites, seront gratuites et resteront gratuites même après, de telle sorte à s'il y a des dépôts au sol. Mais le problème des dépôts au sol, en soi, c'est embêtant surtout parce que quand on dépose le soir et que personne n'est passé, la nuit, on a les chiens, les chats et tout qui crèvent les sacs et qui en mettent partout. Maintenant, est-ce que parce qu'on a quelques dépôts au sol, parce que franchement, on n'en a pas tant que ça, est-ce qu'il faut qu'on arrête? Est-ce qu'il faut qu'on continue à... du coup, on arrête tout et puis on met n'importe quoi dans nos poubelles et puis on continue à enfouir.
Je vais vous poser une question toute simple et pourtant, je pense que la réponse pourrait être complexe. Pourquoi mettre en place une tarification incitative? C'est quoi le fondement de cette tarification incitative?
Le fondement de la tarification incitative, c'est de dire qu'on a des obligations de l'État. Donc, ce qu'on enfouissait en 2010, on enfouissait 4200 tonnes à peu près. L'État nous demande, en 2025, d'arriver à la moitié de l'enfouissement. C'est-à-dire qu'en 2025, on doit être à 2100 tonnes d'enfouissement. On a déjà bien travaillé, notamment avec ces fameux molocs, les points de tri partout, avec le tambour. On arrive là, on est actuellement, en 2024, on va enfouir 2100 tonnes. Donc vous voyez, on a déjà bien réduit, on va enfouir 2600 tonnes. Il nous reste 500 tonnes jusqu'à la fin 2025.
Donc cette tarification, c'est pour ça.
Cette tarification, c'est pour aller plus loin encore. C'est-à-dire que les gens puissent vraiment faire en sorte d'enlever de cette poubelle grise tout ce qui peut être enlevé. Je rappelle quand même que tout ce qui est emballage, tout ce qui est verre, tout ce qui est papier, et maintenant, depuis 3-4 ans sur la communauté de communes, tout ce qui est compostage, tout ce qui est compost, peut être enlevé des poubelles et il reste en accès libre. Quand je dis accès libre, ça ne veut pas dire que c'est gratuit, puisque de toute façon, nous, on a des collègues pour ramasser. Ça fera partie de la part fixe, mais tout ça, on ne l'enfouit pas. Tout ce que vous ne mettez pas dans la poubelle grise, on ne l'enfouit pas. Et ce qu'on veut, c'est que dans la poubelle grise, il ne reste que des choses qu'on doit enfouir. Parce que l'enfouissement, il doit être diminué par deux. Il nous coûte très cher. C'est, en plus, c'est ce qui nous coûte très très cher.
Combien ?
On en est à peu près à 850 000 euros par an. Entre le transport et l'enfouissement, ça nous coûte 850 000 euros. Il y a des taxes de l'État. Plus on enfouit, plus on est taxé. Si on dépasse un certain tonnage, on a des amendes, etc.
Sauf que vous enfouissez moins, c'est ce que vous venez de dire depuis 2010, mais ça vous coûte plus cher.
On enfouit moins, ça nous coûte plus cher parce que les
ça a doublé.
Oui, ça a doublé. Entre 2020 et 2025, ça a doublé pratiquement. Parce que le prix du transport est plus cher. Ah oui, il y a eu les augmentations d'essence, il y a eu tout ça. Le prix du transport est plus cher, le prix de l'enfouissement. Veolia ne nous fait pas de cadeaux et ça prend... c'est de plus en plus cher. L'État ne nous fait pas de cadeaux. La taxe qu'on appelle la TGAP, hein, c'est une taxe sur les ordures ménagères, elle augmente à peu près de 10 euros par an. Oui. Et puis, si vous dépassez un certain volume, vous allez, à partir de 2025, il y aura des amendes.
Mais ça, c'est difficilement entendable aussi pour la population, parce qu'en fait, on leur met de plus en plus de contraintes pour qu'ils trient de plus en plus, et au final, ils ne paieront pas de moins en moins.
Oui, c'est clair qu'ils ne paieront pas de moins en moins, mais on fait en sorte qu'ils ne paieront pas forcément plus. Alors, attention. Cette année, par exemple, moi je ne cache rien, les ordures ménagères vont augmenter encore de 10%, parce que ça nous coûte de plus en plus cher. Après, nous, on est à la redevance, on est à peu près, pour une famille de 4 personnes, à pas loin de 170 euros. Si vous étiez à la taxe, vous payeriez le double. Là, et des endroits, et par exemple, en station, paieraient moins cher, puisque vous avez, plus votre logement est petit à la taxe, moins vous payez. Plus votre logement est grand, si vous êtes tout seul dans un logement de 120 mètres carrés, vous allez payer 500 euros. Donc, on tient absolument à rester à la redevance, et cette redevance incitative est faite en sorte qu'il y ait de moins en moins d'enfouissement possible. Alors, il y a deux choses. Il y a, pour un problème financier, certes, déjà une pour maîtriser les coûts, mais deux, c'est aussi un problème écologique. Aller à Ventavon, voir ce qui se passe, c'est impressionnant. Moi, je suis très content que depuis 2010, on soit passé de 4200 tonnes à 2600 tonnes, c'est-à-dire qu'on a énormément réduit, et on veut continuer, parce que... sinon, dans 50 ans, dans 100 ans, on va enfouir sous nos pieds. Hein.
Par contre, ce qui n'est pas très équitable, c'est que Varsérisoul, ce système par carte, n'a pas été installé.
Alors, ce n'est pas un problème d'équité. On ne peut pas dire que ce n'est pas très équitable, c'est compliqué. Alors moi, je peux vous dire que... j'en ai discuté d'ailleurs avec le maire de Vars. Hein, on a décidé de mettre tout Vars, et comme la station de Risoul, donc la station de Vars, la station de Risoul, sous un régime, entre guillemets, spécial. Ça veut dire qu'ils vont payer, comme tout le monde, une part fixe, qui correspond... au ramassage des ordures, etc., des camions. Et on va, tout ce qui va descendre de Vars, tout ce qui va descendre de Risoul, on va le poser, tout ce qui va à l'enfouissement, on va le poser et on le divisera par le nombre de logements qu'il y a sur place. Parce que on sait très bien que c'est très compliqué. Là, on arrive à gérer un petit peu le tourisme, etc., sur le bas de Valais, parce qu'on n'a pas tant que ça, mais quand vous avez Vars, vous passez de 400 habitants et vous avez 20 000 lits à Vars, vous avez 20 000 lits à Risoul, quand vous passez de 500 habitants à 20 000 personnes, en une semaine, là, c'est compliqué. Et moi, je peux vous dire que l'an dernier, on a fait un peu le tour des stations tous les samedis pour voir comment ça se passait, pour essayer de travailler avec les gens, voir que à Risoul, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de tours opérateurs qui arrivent et les logements sont tout petits, on n'y arrive pas. Moi, je peux vous dire que par contre, à Vars, je suis allé à Vars, les gens font le tri. Il y a beaucoup de familles qui viennent et les gens font le tri. Et moi, je pense que on discute avec le maire de Vars. Pour l'instant, on passe comme ça sur la... C'est-à-dire qu'ils vont avoir une tarification spéciale, mais ils paieront de toute façon par rapport au tonnage. Et dans 3 ans, on s'est mis d'accord, on regarde ce qui se passe en Bas-de-Vallée. Si la tarification incitative marche bien dans le Bas-de-Vallée, ils sont prêts à revenir en arrière et essayer de le faire là-haut. Parce que moi, je dis aussi que pour une station, passer la tarification incitative et dire que quand on vient à la station, nous aussi, on fait attention, on gère nos déchets parce que c'est un plus-value, c'est une plus-value pour la station. De passer pour une station où on fait attention aussi aux déchets, c'est très très important. Parce que je pense que c'est une plus-value pour la station. Ça veut dire qu'on ne vient pas en station pour faire n'importe quoi et puis on fait ce qu'on veut et on balance partout. Non, on travaille aussi sur les ordures ménagères et on fait attention, on fait le tri comme tout le monde. Et il y a beaucoup de gens en France qui le font. Cette tarification incitative, elle concerne 7 millions de personnes en France. Normalement, elle devait concerner, à partir de 2025, 25 millions de personnes. Mais il y a du retard à l'allumage parce que, c'est compliqué, on le voit bien chez nous, hein, c'est compliqué d'y passer parce que ça bouscule un petit peu les habitudes, mais il faut y aller parce que c'est un problème, sinon on va enfouir sous nos pieds. Au bout d'un moment, on va être obligé d'enfouir sous nos pieds.
Vous le disiez, le transport des ordures ménagères coûte de plus en plus cher. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il y avait une étude qui était lancée dans les Hautes-Alpes pour transporter les ordures ménagères sur le train.
Oui, alors c'est... disons que c'est la communauté de communes de Serre-Ponçon qui a contacté un peu toutes les Comcom pour nous demander si on était d'accord pour participer à une étude par rapport à ça. Alors, nous, on a donné notre accord. Après, je ne sais pas si ça va vraiment se faire, mais je pense que si toutes les Comcom ont donné leur accord, oui, il y a une étude qui pourrait se faire pour transporter les ordures ménagères de Briançon ou même avant, jusqu'à Ventavon, par le train. Alors certes, il n'y a pas le train qui arrive à Ventavon, mais il y aurait peut-être 1 ou 2 kilomètres de voie à faire en plus. À réfléchir. Alors c'est vrai que ça va être compliqué aussi, parce que il va falloir que nos fameux quais de transfert, comme on appelle, soient plus près des gares, ou au moins près de la voie ferrée pour que le train puisse s'arrêter pour mettre dedans. Mais c'est quelque chose qui pourrait être étudié, parce que mettre des camions sur la route, plein d'ordures ménagères, c'est pas forcément une solution non plus. Donc peut-être pourquoi pas réfléchir avec le train.
Autre sujet, le Guy S3 Kera a été impacté par les intempéries de 2023-2024. Le précédent gouvernement a annoncé une enveloppe de 20 300 000 euros pour les Hautes-Alpes, 15 600 000 euros pour 36 communes et intercommunalités, et 4 700 000 pour le département. Est-ce que c'est suffisant, notamment pour la Comcom du Guy S3 Kera?
Si j'étais un puriste, je vous dirais que c'est pas suffisant, parce qu'on nous avait promis 100% de... Voilà. Mais bon,
zéro reste à charge.
Il faut être raisonnable. On arrive quand même à 95%. On va être pris en charge sur tout ce qu'on a dépensé à 95%.
Ça fait combien pour le Guy
S3-Kera? Par exemple, pour la Comcom. Je parle pas des communes, hein, mais pour la Comcom du Guy S3-Kera, il nous reste, je ne voudrais pas dire de bêtises, on avait dépensé 3 millions d'euros. Enfin, il nous reste 167 000 euros à charge. On s'attendait à beaucoup plus. Tant mieux, j'en suis content, j'en suis fier. Je suis fier aussi d'avoir bataillé, et surtout avec tous nos parlementaires qui ont bataillé, la préfecture, je tiens à le dire, le corps préfectoral nous a beaucoup aidés, le département aussi nous a aidés. Tout le monde a mis, et tout le monde a dit, il faut nous aider, parce que ça coûte très cher.
Mais c'est sûr que cette somme, vous l'aurez, parce qu'on sait que c'est conditionné au budget.
Déjà, il y a une partie sur 2024. Ouais. On nous avait dit que c'était conditionné un peu au budget 2025, et j'en ai discuté en aparté sur une petite réunion qu'on a sur un autre sujet, hein, avec Jennifer Roussel, qui m'a dit non, monsieur Moulin, vous inquiétez pas, c'est acté, cette somme-là, vous l'aurez.
Donc c'est
fait à la ruralité, oui.
Autre sujet, l'INSEE a publié en décembre dernier une étude concernant la population régionale dans les Hautes-Alpes. Donc les Hauts-Alpins sont 141 000, on va élargir. 3% de la population régionale, une population qui stagne, 0%. Conséquence d'un déficit naturel et d'une forte baisse de l'excédent migratoire. Et les communes qui enregistrent la plus forte décroissance, il y a Guillestre notamment. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un problème d'attractivité, et dans le département, et puis dans votre territoire aussi?
Alors, oui, il y a un problème d'attractivité. C'est pas forcément, c'est compliqué d'habiter sur notre territoire, c'est de plus en plus cher. On a de moins en moins de logements locatifs. Donc, vous savez, quand quelque chose se vend sur notre territoire, je ne parle pas de Guillestre, parce que je ne suis pas persuadé que la population de Guillestre, c'est pas elle qui a le plus baissé, c'est des statistiques, hein, parce que quand on fait vraiment les recensements, et moi je vois bien sur Guillestre, il y a quand même beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de monde. Mais c'est compliqué d'habiter sur notre territoire, sur le Guillestre Roquera, c'est très cher. Il n'y a pas de logement locatif, ou il y en a très peu, et donc quand quelque chose se vend, c'est forcément une résidence secondaire, et ça c'est un problème. Parce que, bah oui, on a de plus en plus de résidences secondaires, on a de plus en plus de gens qui sont là très peu à l'année, et nos jeunes ne peuvent plus se loger. Oui, c'est vrai. On a un glissement de population, et il n'y a pas que nous, c'est surtout le nord du département vers le sud. Ça s'est un peu calmé, parce que je me suis aperçu que Pam Gap n'augmentait plus sa population, pratiquement. Mais c'est pas un problème d'attractivité, parce qu'on fait tout pour être attractif, je peux vous dire que...
Mais en fait, vous l'êtes beaucoup trop, donc du coup, les résidences secondaires sont de plus en plus nombreuses.
Non, parce que les résidences secondaires, elles sont attirées par quoi? Elles sont attirées par les stations de ski, par la montagne, pour venir se mettre au vert, etc. Parce que quand je parle de résidences secondaires, c'est bien des résidences secondaires qui ne viennent pas toute l'année. On est aussi submergé, entre guillemets, aussi par beaucoup de personnes qui ont un pouvoir d'achat, des personnes âgées qui achètent et qui viennent passer leur retraite à la montagne. Ça aussi, c'est... Et on va très vite se retrouver, alors très vite, dans les 10, 15, 20 ans à venir, sur un problème de service sur nos territoires, parce que ces personnes âgées vont vieillir de plus en plus, et il va falloir développer des services, parce que de toute façon, l'autonomie, au bout d'un moment, on la perd, et il va falloir qu'on se tourne vers des services à la population. Donc nous, à la communauté de communes, on en a déjà. Je peux vous dire qu'on a des aides à domicile, on fait le portage des repas, et on y tient, on fait tout ça. Après, c'est des services qu'il faut encore qu'on développe, et c'est pour ça qu'on se bat pour les garder, ces services, parce que de toute façon, vous pouvez demander des aides à domicile, ce que vous voulez, à des boîtes privées, ils ne veulent pas venir chez nous parce que c'est trop loin, il n'y en a pas assez. Donc nous, on pourrait faire le service. C'est sûr que ça nous coûte, mais c'est important pour nous pour garder les gens sur le territoire.
La communauté de communes du Guillestrois-Quéra a lancé une consultation concernant les politiques de mobilité. Un plan de mobilité simplifié qui va avoir lieu. Il comprendra quoi et vous attendez quoi des citoyens ?
Alors, il comprendra quoi ? Il comprendra déjà quelles sont les attentes des citoyens. On les connaît un petit peu, hein, bien sûr, mais... et il va aussi expliquer et mettre là où il y a des trous dans la raquette, comme on dit. Après, il faut être réaliste aussi. On ne pourra pas mettre un bus à chaque train. C'est-à-dire un train qui arrive à la gare de Mont-Dauphin, il ne pourra pas... On a quand même une spécificité sur le Guillestrois-Quéra. Quand on fait le compte, on a 9 vallées. On a que des cul-de-sac, donc quelque part, pour mettre des bus qui vont partout. Par contre, pour moi, vous avez actuellement l'hiver et l'été... fait par la région, on a 3 bus qui montent dans le Quéra, 3 bus qui montent à Vars et Risoul, je crois, et qui descendent par jour. En dehors de la saison, ça n'existe pas. Déjà, peut-être la première chose, c'est trouver une solution pour qu'on puisse le faire. On a déjà, alors cet été, au mois de juin et au mois de septembre, on a voté en conseil communautaire, on va mettre en place, et par expérimentation, ce qu'on appelle un transport à la demande. C'est-à-dire que les gens qui prendront le train qui arriveront sur le Guillestrois-Quéra pourront demander avant l'arrivée de dire voilà, moi j'arrive, je voudrais aller à tel endroit, est-ce qu'il peut y avoir un bus ? S'il y a, on mettra en place ce genre de choses. Alors on sait que ça va être déficitaire pour nous. On va voir à quel prix. Si on a 8-10 personnes dans le bus, c'est pas déficitaire. Si on a moins, on payera le déficit, mais juste voir ce que ça nous coûte et voir si c'est vraiment une attente des gens. Parce qu'on le met en place, parce qu'on nous a demandé et on a des maires qui nous ont demandé, mais est-ce que c'est vraiment une attente ? Ça, on verra.
Voilà. Je voulais vous parler du train de nuit Paris-Briançon puisqu'il s'arrête aussi à Guillestre.
À Mont-Dauphin.
Guillestre-Mont-Dauphin.
La gare de Mont-Dauphin-Guillestre qui est à Illier.
Voilà. Mais alors, le mois de décembre et le mois de janvier ont été chaotiques, plusieurs incidents. Est-ce que la communauté de communes du Guillestrois-Quéra va se positionner parce que, en fait, le risque à la fin, c'est qu'on n'emprunte plus ce train pour venir dans les hôtels.
La communauté de communes du Guillestrois-Quéra, depuis 2020, se positionne à chaque fois pour... garder ce train. Et on y tient, ce train. On y tient. Par contre, on aimerait bien qu'il soit à l'heure, qu'il soit...
Et la SNCF, il tient, ce train ?
Et je ne sais pas. Je me pose des questions. Alors, en plus, on parle du train Paris-Briançon, qui pose gros problème, parce qu'arriver avec 6, 7 heures, 8 heures de retard, c'est du n'importe quoi. Les wagons ne sont pas forcément modernes, etc. Et puis, on oublie de dire aussi que quand le train il est en retard, comme ça, mais ça dérègle tout. Moi, je peux vous dire qu'à la communauté de communes, j'ai des gens qui viennent travailler en train, qui viennent d'Embrun, qui viennent travailler en train. Donc, ils viennent, ils font Embrun, Mont-Dauphin-Guillestre en train, et après, ils montent à Guillestre. Quand le train de nuit est en retard, ça dérègle tout, les gens, ils ne sont plus à l'heure, ils ne peuvent plus bosser. Donc, maintenant, ils reprennent leur voiture. C'est un peu dommage. C'est-à-dire qu'on nous parle de train pendulaire, de choses comme ça, mais de toute façon, si on a un train qui bloque tout parce que quand il est en retard, ça dérègle tout le système. Mais ce train de nuit, bien sûr que la communauté de communes, et d'ailleurs, je pense qu'au prochain conseil communautaire, on prendra aussi certainement encore une motion, mais on prend des motions, mais à chaque fois, de toute façon, c'est compliqué.
C'est un coup d'épée dans l'eau ?
C'est un coup d'épée dans l'eau parce que peut-être que l'État n'a pas envie. Bon, vous savez quel est le problème, hein. C'est des problèmes de motrices de moteurs diesel qui sont vieilles, qu'il faudrait remplacer, qui sont en panne, etc. La ligne n'est pas électrifiée, ouais. Mais il faudra peut-être qu'ils se posent des questions parce que les JO de 2030 sont bientôt loin. Il est clair que c'est quelque chose d'important pour nos territoires et qu'il faut absolument y aller. Mais il faut aussi qu'on ait des infrastructures qui tiennent. Donc il faudrait peut-être que l'État se réveille par rapport à ça.
Merci beaucoup Dominique Moulin d'avoir été avec nous ce matin sur Alpin. Je rappelle, président de la communauté de communes du Guillestrois-Quéra.